c'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC.
J'ai fait un essai sur une grosse machine, ils m'ont fait voir comment c'était. Et comme j'avais de la rapidité et que je travaillais bien, ils m'ont tout de suite pris. J'ai été embauchée tout de suite.
Tous les jours, il y avait quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose.
Il fallait prendre le morceau de tissu. C'est pas tac, 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 tac.
Voilà, j'ai bien fait de continuer parce qu'après, je vais être contente de moi.
Ah, mais il y a de quoi être fière. Hein.
Les mains d'or. Des mains tendues qu'on oublie parfois de serrer. Des petites mains. Des mains vertes. Oui, des mains qui soignent, nourrissent et produisent. Des mains qui nous grisent et puis surtout, qui nous racontent des histoires. Vous êtes sur Studio Zef 91.1 et les mains d'or, c'est leur voix.
Il suffit vraiment d'un rien pour changer complètement. Il suffit d'un rien. Est-ce qu'on est le même avec des lunettes et puis sans les lunettes ? Vous avez rencontré Olga Radicel et moi. Moi, je suis Mathilde. Mathilde Vandenboom. Qu'est-ce que c'est que ce nom-là ? Ça veut dire Mathilde de l'arbre. Ouais. J'ai pas fait exprès, hein. Donc, me v'là obligée de vous raconter comment tout ça a une voix. Il paraît qu'au tout début du monde, les hommes ne vivaient pas sur la terre, mais sous la terre, dans son gros ventre rond et chaud. Et là, les hommes étaient bien. Contre son cœur, battant les hommes vivaient. Sur la paroi, sur la roche, il y avait des perles de lait qui gouttaient. Et les hommes allaient lécher le lait. Tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et voici que, parmi les hommes, une femme.
Je crois que le premier conte que j'ai vraiment entendu raconter, c'était dans un film. C'était par écran interposé. C'était dans un film qui s'appelle Le cheval venu de la mer. Et dedans, t'avais un papy qui racontait la fin d'une histoire. Et après, il y avait tout le conte qui était un peu morcelé à l'intérieur de ce film-là, donc on en découvrait d'autres passages à d'autres moments. Bon, ça, c'est pareil, ça fait partie des contes qui m'ont fascinée. J'ai adoré. C'est un motif qui existe dans pas mal de cultures, ça, le pays qui existe sous les flots. Alors, t'en as aussi parfois qui sont dans le ciel, mais très souvent, c'est sous les flots et où le temps est complètement autre, en fait. Et quand le personnage veut retourner à la surface, retrouver sa famille, évidemment, il est toujours confronté à de très mauvaises surprises. La fin n'est pas toujours aussi dramatique, et là, je crois qu'en fait, j'aime bien ce... Hélas, je dois avoir un peu une fascination pour le côté macabre de cette histoire qui est pas tendre, quoi, à la fin. Je crois que j'aime bien quand les contes sont pas tendres. C'est bien quand ils le sont aussi, mais bon, de trouver la tendresse dans la rugosité du monde et de la monstruosité de la vie, parfois. C'est drôle, j'ai l'impression que là, je suis en train d'ouvrir encore un autre chapitre. La vie d'actrice, elle n'a pas forcément été extrêmement longue, mais elle a été assez rapidement dense. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique, le fameux. Un conservatoire d'arrondissement à Paris. Et assez rapidement, déjà, la dernière année du conservatoire, qui était sur 3 ans, j'avais déjà pas mal de projets. De spectacles avec lesquels on tournait. Alors au démarrage, évidemment, on n'est pas toujours très regardant sur ce qu'on fait. Donc voilà, là, j'étais embarquée dans des expériences qui ont été chouettes, mais qui n'étaient peut-être pas forcément ce que j'aurais tout de suite voulu forcément faire. Enfin voilà, au début, tu bosses parce que t'as besoin un peu de bosser, quoi. Et puis de se rôder sur la scène. Moi, je crois vraiment à ça, en fait. J'ai du mal avec l'école, j'ai besoin d'être dans le concret des choses, en fait. Mais parmi ces expériences-là, il y en a deux qui m'ont beaucoup apporté. Il y a une expérience avec la compagnie Ordinaire qui était constituée de personnes que j'ai d'ailleurs rencontrées au conservatoire, qui étaient rentrées un petit peu avant moi, et qui travaillaient beaucoup sur le décloisonnement, donc qui allaient beaucoup jouer dans des lieux insolites, qui n'étaient pas forcément dans un rapport frontal de scène publique, mais qui cherchaient un peu autre chose, quoi. Et dans ce cadre-là, j'ai monté... C'est drôle parce que je pense que j'étais déjà pas très très loin du monde du récit. On a monté l'adaptation de Amok, Le fou de Malaisie, qui est une nouvelle de Stefan Zweig. Et voilà, qui était adaptée pour être portée par une seule personne en scène, en fait. Donc dans une parole assez directe. Il y a ça, et il y a, ah là là, dans un tout autre univers, l'expérience avec une très très chère amie qui s'appelle Caroline Lyonnais. Bon, après, elle a plusieurs identités, notamment tu vas la retrouver sous Caroline Lyon, ou Carotut à l'époque. Et alors, avec elle, on faisait des choses mais complètement déjantées. Pareil, avec un décloisonnement de scène publique qui était assez fort, et au-delà de ça, elle a été beaucoup impressionnée par le monde de la performance, et voilà, c'est une exploratrice, en fait. Et on a monté quelques formes comme ça, assez déjantées, qui mêlaient à la fois la danse, le théâtre, le chant, la performance. Moi, j'étais une espèce de technicienne, danseuse, performatrice à l'intérieur de tout ça. Des choses assez, assez décoiffantes. Et en fait, c'est la Grèce, c'est le fait que je rencontre la Grèce qui m'a un peu décalée, c'est-à-dire que j'ai eu besoin d'aller m'installer là-bas. C'était plus fort pour moi que de continuer mes projets de spectacle en France. Et c'est là-bas que j'ai rencontré beaucoup plus l'univers du conte.
Une comédienne, elle va travailler normalement à partir d'un texte qui existe déjà et d'un personnage qui existe déjà aussi. Et il s'agit déjà de s'approprier vraiment le texte, de tellement le mâcher, le mettre en bouche, le mettre dans le corps, le mettre, qu'il en devient naturel, ça en devient son phrasé à elle. Après, le travail sur le personnage, c'est encore autre chose. C'est peut-être là que l'imaginaire intervient le plus, d'ailleurs. Imaginer, en dehors des mots, qu'est-ce que c'est que la vie de ce personnage, à quoi il ressemble physiquement, c'est quoi ses postures, c'est quoi sa manière de parler, c'est quoi... qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas sur scène, dans la pièce, dans ce qu'on écrit de lui. C'est quoi ces petites manies, tout ça. Ça, j'imagine que c'est quand on a vraiment le temps de se poser la question. Je sais pas si beaucoup de comédiens ont ce temps-là aujourd'hui, j'espère que si quand même. C'est aussi un peu le travail du metteur en scène, hein, de co-construire ça. Il y a des similitudes, parce que finalement, les personnages, on pourrait presque considérer qu'ils sont un peu vivants aussi. Un peu comme chez Pirandello, avec ces six personnages en quête d'auteur qui sont un peu qui cherchent un auteur pour écrire la fin là, puis ils cherchent, puis ils ont besoin d'être joués par. Enfin c'est. Et les contes, c'est un peu pareil, c'est un peu ça. Ces histoires qui traversent les âges, les temps, les frontières aussi, qui passent d'un conteur à l'autre, qui se teintent d'une culture, qui changent toujours un peu. Peut-être qu'il y a un travail sur la langue qui est plus évident dans le conte, parce que le conteur, en tout cas le conteur moderne, va vraiment faire un travail sur sa manière, sur quels mots il va employer, la manière dont il va tourner ses phrases, comment est-ce qu'il s'adresse, est-ce que c'est un conteur qui s'adresse vraiment au public, est-ce que c'est un conteur qui reste dans sa bulle, est-ce qu'il est lyrique, est-ce qu'il est très prosodique. Il y a tout un travail de style, en fait, dans le langage. Le conte se transforme au contact de l'imaginaire d'un conteur, parce qu'il va vouloir lui faire dire des choses au conte qu'un autre conteur ne va pas forcément trouver nécessaire, quoi. Donc il y a peut-être un travail de réécriture, un travail d'écrivain. Et après, la différence avec une comédienne, avec un comédien, c'est que le comédien, il interprète un personnage, donc il va devenir, il va se laisser posséder, imprégner en tout cas de ce personnage, et ensuite il faut que ça vive sur scène. Là, c'est une histoire, c'est pas un personnage qui parle. C'est une histoire. Je pense qu'en fait, peut-être que le conte a presque plus d'affinité avec le cinéma qu'avec le théâtre. Parce qu'il s'agit de donner à... Il s'agit de susciter des images dans l'esprit des gens, que eux-mêmes se... créent leur propre film. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi ça m'a autant impactée. Je trouvais très belle, du coup, cette manière de faire exister un univers, un espace aussi, uniquement à travers les mots. C'est-à-dire que ce n'est pas la mise en scène, le placement, le costume, le placement, la scénographie ou quoi qui va faire exister. C'est paf, un conteur, il pourrait être dans le noir, tu pourrais juste avoir sa voix et il te déploie un univers qui se cale presque en 3D autour de lui, autour de l'auditeur, autour de peut-être de la salle entière, en fait. Après, ça, c'est quand c'est vraiment très... Quand le conte arrive à un peu son paroxysme de d'aboutissement, mais... Son paroxysme d'aboutissement, je suis pas sûre de savoir exactement ce que ça veut dire. Son paroxysme d'aboutissement, ça fait un super bon spectacle, non ? Aïe, 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 on n'est pas du tout prête. Ça y est, là, c'est fini, vous attendez des comptes maintenant ? Des comptes ! Alors attends, il est quelle heure ?
Non, moi, j'ai beaucoup travaillé pour des commandes, du coup très souvent c'est raconté pour des enfants. On cherche beaucoup plus à attirer leur attention, donc à faire rentrer des questions de rythme. Le théâtre rentre plus en jeu, mais je trouve que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, en fait, dans le conte. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, en tout cas. C'est vraiment plus cette manière de mettre la texture texte. Va venir réveiller l'imaginaire, en fait. Et que le spectateur devient actif à l'intérieur de ça. Ça se met en route dans sa tête, dans son corps, dans sa mémoire, dans ses sensations.
La femme a appelé toutes les autres femmes, toutes les mères, toutes les grand-mères, toutes les sœurs, toutes les filles, elles sont toutes arrivées et chacune s'est mise devant une racine et chacune à leur tour, elles sont... À la surface du monde.
J'ai beaucoup raconté en français parce que je racontais beaucoup à des enfants pour leur faire découvrir et approcher la langue française. Enfin, je racontais pour différents publics. Après, je racontais aussi pour des ados qui ont déjà une bonne maîtrise du français. Et puis après, pour des adultes francophones. Peut-être une fois ou deux, j'ai raconté en grec. Et c'est drôle, c'est évidemment plus compliqué, et en même temps, le fait de passer dans une langue étrangère, ça amène plus d'attention aussi aux mots. Ça amène un autre rythme. Et peut-être ça amène à simplifier. Ça amène, tu sais, c'est marrant, il y a 2-3 jours, je rebossais sur un conte que je suis en train de défricher en ce moment, et j'ai commencé à le raconter en anglais. Et en fait, ça amenait complètement autre chose, j'étais un peu bloquée en français. Et là, puis d'avoir ce jeu, ça amène ouais, d'autres jeux sur les mots. Enfin, puis après, quand on repasse en français, ça a un petit peu modifié le rapport à l'image. Tout à coup, j'ai eu envie de... Mais c'était en me baladant, tout à coup, je me suis mise à raconter en anglais. Et puis je voyais la chose autrement. Ça faisait... Notamment, c'était un conte qui se passe qui se passe chez les Inuits. Donc on imagine vraiment ces images de désertiques, de paysages très blancs, très... selon les saisons, qui peuvent être emprisonnés aussi sous la neige, sous la glace. Et à un moment, dans ce conte-là, il y a un rapport entre le rivage et une île. Et en fait, en le racontant en anglais, tout à coup, c'est venu « land and island ». Et putain, mais en fait, c'est pas du tout la même chose qu'en français. « Rivage, île, land, island », c'est exactement la même chose, mais il y a juste une petite différence. Et comment ça les connecte autrement, quoi. C'est très cérébral tout ça, mais... mais peut-être pas tant, parce qu'après ça change quelque chose dans la conception. Puis trouver du coup ce qui va connecter, là ça va être la mer qui se fige sous une couche de glace à une certaine période de l'année. Le lien, il est... Les deux paysages se fondent et puis...
Une petite voix de femme, une voix menue, une voix ténue s'est élevée jusqu'à eux. On est coincé, on ne peut plus descendre.
Eh bien, mes amis, eh bien, mes enfants, vous n'avez qu'à vivre là-haut.
Mais c'est pas possible, on va tous mourir, y a rien à manger ici.
Patience, patience, vous verrez, ça viendra, ça poussera.
Les pratiques quotidiennes, il faudrait. Je dois bien avouer que je ne suis pas très très assidue. Il faudrait que j'en mette beaucoup plus dans mon quotidien. Notamment le travail du corps, ne serait-ce que délier le corps. Ça, c'est à la fois le détendre et se mettre dans ses sensations. C'est quelque chose que très souvent je zappe, et alors qu'en fait ça m'est complètement essentiel. Donc je suis en train de doucement le remettre dans ma pratique. C'est pas forcément très long, mais des exercices de sensation, d'ancrage, de... De rendre le corps comme une espèce de récepteur. On sent avec plein de choses de son corps. Notamment les espaces imaginaires, on peut les sentir avec plein de choses de son corps. Et la voix, ma foi, ouh là là, non. C'est pareil, je pense qu'il faudrait, mais j'ai un sacré poil dans la main.
Je devrais pas le dire, ça.
Le couper.
Ah, t'es pas obligée, tu peux le laisser. Ça me dérange pas qu'on sache que j'ai un poil dans la main.
Et mon grand poil, je le bichonne un peu. Non, c'est sûr qu'il faudrait. D'autant que, en fait, il y a plein de choses. J'ai l'impression que on fait l'impasse parce qu'on se dit ça prend du temps, j'ai d'autres choses à faire, faut que je fasse avancer ceci ou cela, alors qu'en fait, elles viennent complètement nourrir, elles viennent déjà faire l'espèce de socle, un état d'ouverture pour travailler. Justement, je te disais que j'ouvrais un peu une troisième page.
après avoir fait la comédienne puis la conteuse. Les deux se rassemblent pour créer autre chose, en fait, et notamment pour s'adresser plus aux adultes. Moi, j'ai jamais la sensation que les contes, c'est pour les enfants. J'aime pas raconter que pour les enfants. En tout cas, moi, là, en ce moment, je travaille clairement plus en direction, enfin, à destination des adultes. Pas tant avec des contes que avec plus largement du récit qui s'appuie à la fois sur du carnet de voyage, sur du récit de vie, pas un peu ma vie mais pas que, enfin de ce dont moi j'ai pu être témoin, donc récit aussi de vie d'autres personnes, et de la mythologie, c'est une forme de récit aussi.
Monsieur, bis repetita, est-ce que je suis conteuse, c'est ça? Oui, mais oui, pour le dire de manière plus fleurie, je suis travailleuse de la verve, voilà. Il en faut, exactement.
Et ma situation à moi, qui est pour la situation de beaucoup de conteurs, je pense. Très souvent, on est assimilé artiste du spectacle vivant et on passe par des compagnies pour, ou peu importe, en tout cas des structures, pour pouvoir se déclarer en cachet et bénéficier de l'intermittence du spectacle. Je dois bien avouer que c'est, pour moi en tout cas, tel que je le vis, c'est un cadre qui est extrêmement important pour travailler, en fait. Parce que certes, il faut avoir un certain nombre de cachets à l'année, donc il faut les trouver, ces dates-là, mais n'empêche qu'en contrepartie de ça, on a la garantie d'un minimum de stabilité financière, au moins sur un an. Donc ça, c'est assez précieux. Même si, évidemment, mais c'est pas du tout propre au métier de conteur, quoi. C'est des professions qui sont très précarisées, parce que ben, on est un peu dépendant, là on a été dépendant des aléas qui ont été provoqués par le Covid, comme tout le monde, quoi. J'ai quand même l'impression, moi j'ai l'impression d'être assez souvent protégée quand même, à l'intérieur de ce statut-là. Faut tricoter avec les baisses de budget qui se font sentir de partout. Faut tricoter avec plein de paramètres de... Je sais pas si on est en train de traverser une crise ou une mutation de... C'est un peu compliqué parce qu'on est en train de la vivre, donc en fait c'est... En tout cas on sent bien que tout est en train de redevenir un état d'instabilité, en fait. Et que c'est possiblement pas si passager que ça, quoi. Donc voilà, forcément, l'instabilité, elle nous touche aussi. Après, moi, tel que je le vis, je trouve que conteur, c'est encore un peu une petite niche. Donc, je me remets un peu en vulnérabilité, mais ça va. Je voulais embarquer une amie conteuse avec moi à proposer un podcast autour du conte de la ville, enfin voilà, c'était un imaginé à deux, puis on s'est un peu débobiné, elle parce qu'elle n'était pas forcément encore prête à raconter, et puis moi parce que je me sentais pas de le faire toute seule. Mais d'une manière générale, je crois vraiment que on est tellement sur le visuel en permanence, il y a une espèce de culte de l'image qui vient complètement façonner nos vies. Et pour moi, c'est hyper précieux de pouvoir travailler l'écoute, réactiver l'écoute, juste l'écoute et le potentiel d'imaginaire qu'il peut y avoir juste à écouter. On n'a pas besoin de l'image pour avoir de l'imaginaire, quoi. Je pense que l'image, parfois, peut brider l'imaginaire.
Normalement, si tu tapes Mathilde Vandenbaum, tu vas me trouver assez rapidement. Mais mon site, c'est www.sousl'arbre.com, comme si on était sous un arbre. Et pourquoi ? Ben, c'est parce que Vandenbaum, c'est mon nom, et ça veut dire de l'arbre.
Corbi la son monte calo si mi a a fursti mala.
Aba la ma risti cota stock var instigator rota. Stolti, stolti, mi mi la tu, stolti la tu, costa bravo. Abra mi dai no la caccia, morti la tu, alla lascia.
Some more.